Ah, l'adolescence, un âge difficile.
Assez fréquent chez les préadolescents. Elle en a tous les symptômes. Hyperactivité, saut d'humeur...
Écoute, je suis occupée à profiter de mon adolescence, alors fiche-moi la paix et fais la même chose.
Oui, mais parfois on change à l'adolescence.
Les ados, ça se lève pas tôt, normalement.
Il y a tout du monde merveilleux des adolescentes.
C'est un miracle. Un adolescent qui dit non à la drogue et oui à l'instruction, c'est un miracle.
So, may we start?
Et maintenant, les ateliers radiophoniques des Canal B.
L'émission que vous allez entendre aujourd'hui a été enregistrée au lycée Simone Veil de Liffré, où Sylvie Lecune, professeur documentaliste, a installé un studio radio, Simone en Air. Avec ses collègues d'histoire-géographie, Chloé Jégou et Marie Michelet, elles ont accompagné cette année deux classes de seconde, les 205 et les 212, dans un projet d'éducation aux médias et à l'information. Ce travail a été récompensé du premier prix du concours Mediatix, organisé par le CLEMI, sous la houlette de Sylvie Patea, coordonnatrice académique du CLEMI Bretagne et référente académique EMI. Dans ce premier épisode, vous entendrez les élèves de seconde 5, les 205, et elle évoque, entre autres, le slow journalism, la concentration des médias en France, la menace de l'IA pour le métier de journaliste, le fact-checking et d'autres sujets encore. La semaine prochaine, ce sont les élèves de seconde 12 qui prendront l'antenne.
Bonjour.
Nous sommes William, Arthur et Sarah, lycéens de seconde du lycée Simone Veil de Liffré. Cette année, dans le cadre de l'EMC, on a fait de l'EMI.
Mais c'est quoi l'EMI ?
L'éducation aux médias et à l'information fait partie des programmes scolaires et a pour objectif d'aider les élèves à s'informer de façon sûre et pertinente.
On s'est posé la question suivante. Comment on s'informe et comment on informe ? Quels sont les enjeux dans la formation à notre époque ?
Et comment a-t-on abordé ces questions ?
Tout a commencé par une rencontre avec Morgane Soularue, journaliste à Canal B, qui est venue dans notre lycée. À la suite de cet échange, on a choisi des sujets très divers comme l'infobésité,
le métier de journaliste,
la déontologie,
l'importance des sources,
la post-vérité
et le sensationnalisme,
les réseaux sociaux comme médias d'information, etc.
Après, on a fait des recherches, on s'est creusé la tête, on a essayé de prendre du recul et de vérifier nos sources d'information.
Et on a écrit nos textes. On les a réécrits pour les améliorer, parfois plusieurs fois.
Ensuite, on s'est entraîné à le dire de façon vivante.
On s'est amusé à créer des jingles.
Et on a enregistré nos podcasts dans le studio radio du lycée.
Aujourd'hui, on est ravis de vous faire partager certaines de nos productions.
D'abord, vous entendrez nos réflexions sur le slow journalisme.
Sur l'influence de l'IA sur le journalisme.
Puis sur les conséquences de la concentration des médias en France.
Certains d'entre nous ont enquêté sur la presse comme quatrième pouvoir.
D'autres ont testé différents moyens de vérification de l'information.
Enfin, certains vous conseilleront des médias qui plaisent aux jeunes.
Alors bonne écoute.
Ralentir pour mieux s'informer.
Bonjour chers auditeurs et bienvenue sur votre radio préférée Radio 35. Je suis Chloé et je suis ici pour vous parler du slow journalisme. Nous allons franciser ce terme pendant l'émission pour faciliter la compréhension. Mais qu'est-ce que le slow journalisme de manière simple ? Le slow journalisme, c'est un mouvement journalistique qui consiste à prendre le temps de décrire l'actualité face à un monde qui va de plus en plus vite. Pour approfondir ce sujet, j'ai invité Anaë et Maëline. Bonjour à toutes les deux.
Bonjour.
Bienvenue sur le plateau de Radio 35. Pour commencer, qu'est-ce que le slow journalisme et comment vous le définissez, Maëline ?
Tout d'abord, le slow journalisme est une nouvelle tendance de presse qui consiste à prendre le temps, comme vous l'avez dit au début. Prendre ce temps permet de développer et de plus détailler des sujets d'actualité. Et ce type de presse défend une idée selon laquelle la qualité et l'intérêt du journalisme passent par le fait de prendre son temps dans le choix et le traitement de sujets.
Et de quand date ce mouvement ?
Il date des années 2000, après le passage au numérique, notamment avec les réseaux sociaux. Il permet de s'arrêter sur des sujets précis et ce flux d'informations s'appelle l'infobésité. Le slow journalisme est justement tout l'inverse de cette infobésité.
Maëline, tu viens de nous parler d'infobésité. Est-ce que Anaï, tu pourrais nous expliquer précisément ce que c'est ?
Ce terme est un mélange entre information et obésité. C'est une surabondance d'informations qui arrive sur les chaînes télévisées de manière continue. D'après l'INA, on estime aujourd'hui qu'il y a plus d'informations ces 30 dernières années qu'en 5000 ans d'histoire.
Maëline, comment peut-on expliquer cette surabondance ?
Avant, on prenait davantage le temps de décrire l'actualité, notamment puisque la presse était exclusivement en papier, alors qu'aujourd'hui, avec le développement de nouvelles technologies et la mondialisation, ça a accentué ce phénomène d'infobésité, car nous sommes au courant de tout ce qui se passe dans le monde en continu, comme les conflits politiques, économiques, etc. Et toutes ces informations s'accumulent à ne plus savoir quoi en faire.
Mais donc, est-ce que cela a des conséquences directes sur les gens et lesquelles, Anaï ?
Les personnes sont submergées et ne prennent pas le temps de lire les articles, s'arrêtant souvent sur les gros titres. Ce qui change, c'est la transformation de la temporalité, du quotidien, et donc l'information devient instantanée.
Penses-tu que le monde s'accélère ou va de plus en plus vite ?
Oui, en effet, le monde va vite, les gens vont vite et l'information s'accélère. Si l'information se fait toujours plus rapide, c'est que le public n'a plus une minute à perdre.
Mais est-ce que dans ce contexte, les gens lisent vraiment les articles, Maëline ?
Non, pas vraiment. Le problème est bien là. Une étude menée par l'Université de Columbia de l'INRIA montre que 60% des personnes partagent des articles, notamment sur les réseaux sociaux, en ayant seulement lu le gros titre.
Pour finir, avez-vous des exemples de presse qui pratiquent le sous-journalisme à nous citer, Anaï ?
Oui, je vais vous faire une comparaison entre deux journaux télévisés. L'un pratique le sous-journalisme et l'autre non. Le 28 minutes sur Arte prend 28 minutes pour traiter une information d'actualité, en prenant le temps de la détailler. Par exemple, ils ont parlé de l'assassinat à Marseille du petit frère d'un militant écologiste engagé dans la lutte contre le narcotrafic. La question était, les consommateurs de drogue sont-ils responsables des crimes du narcotrafic ? Trois spécialistes ont été invités pour débattre autour de cette question. Isaac Goulsert, journaliste et professeur à Sciences Po, Isabelle Durand, experte au Conseil des droits de l'homme, et Stéphane De Vry, correspondant en affaires européennes pour la radio néerlandaise. A l'inverse, le journal quotidien de TF1 traitait le même sujet de manière très brève, en seulement 2 minutes. Cela montre que les journaux télévisés les plus populaires ne prennent pas forcément le temps de détailler des sujets essentiels. Ce qui arrange les gens qui veulent, comme dit précédemment, toujours plus d'informations en un temps record.
Maëline, avez-vous d'autres exemples ?
Oui, en ce qui concerne les journaux papier, le 1 est un très bon exemple d'utilisation du slow journalisme. Ce bulletin hebdomadaire est une sorte de poster qui traite une seule et même information. Par exemple, il a réalisé un sujet autour des différents moyens pour protéger notre cerveau face aux maladies neurodégénératives. Sous forme de poster chaque semaine, cela permet de bien développer un sujet de manière bien précise.
Merci beaucoup Anaï et Maëline de nous avoir éclairés sur le sujet et merci à nos chers auditeurs de nous avoir écoutés. À bientôt.
Vous êtes sur Simone On Air.
Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, abordons la nouvelle question de la semaine, mais avant de vous la dévoiler, n'hésitez pas à envoyer un message à @femmeradio.com pour choisir le prochain thème. Je suis Maëlys, dans notre émission nous parlons de politique, mouvements sociaux, économie, inégalité et actualité du monde.
Je suis Fantine, nous allons en 5 minutes vous ouvrir les yeux et démarrer le nouveau débat sur le nouveau thème de la semaine, l'IA.
Je suis Pénélope et dans ce 11e épisode, nous aborderons la question tant attendue. Est-ce qu'un jour, l'intelligence artificielle remplacera les journalistes ?
IA, technologie intelligente.
Merci d'être avec nous ce soir, tenez-vous prêts, nous allons appuyer sur le champignon, mais nos pressions.
Mais l'IA, à votre avis, qu'est-ce que c'est ?
Une intelligence qui prendra possession de notre planète, un simple robot ménager, ou bien une IA surdéveloppée. C'est cette crainte de l'inconnu qui était aujourd'hui présente dans notre société.
Les actrices, les musiciens, les réalisatrices, les doubleurs, les compositrices, les chanteurs, les poétesses sont les premiers à craindre un brusque changement de leur métier dans un futur proche.
Vous ne vous sentez pas concernés, mais restez vigilants. L'IA sera peut-être bientôt un de vos soucis. D'après la CNIL, la Commission nationale de l'informatique et des libertés, l'intelligence artificielle n'est pas une technologie à proprement parler, mais plutôt un domaine scientifique dans lequel les outils peuvent être classés lorsqu'ils respectent certains critères.
Le Parlement européen, quant à lui, définit l'intelligence artificielle comme, je cite, « tout outil utilisé par une machine capable d'imiter des comportements humains comme réfléchir, planifier ou créer ».
Nous avons interrogé des personnes de 14 à 16 ans sur la question de cette semaine, rappelons-le. Est-ce qu'un jour, l'IA remplacera les journalistes ?
Écoutons leurs réponses et leurs réactions.
C'était génial. Et
pardon. Je m'appelle Anne. Je ne sais pas trop, mais en tout cas, je peux dire qu'elle ne remplacera jamais les émotions humaines.
Je m'appelle Anaïs et je pense pas. Je m'appelle Ilona et non, je pense pas.
Sincèrement, je pense que moi, je pense pas.
Moi, je pense que non, parce que l'IA ne peut pas aller sur place pour enquêter comme les journalistes le font déjà. Donc, je pense que l'IA ne peut pas, étant donné qu'en plus l'IA se base sur des faits qui sont déjà passés. Alors, ça forcera un peu les journalistes à se renouveler également. Donc, non, conclure, je ne pense pas.
Alors, moi, je pense que l'IA va remplacer les journalistes parce que tout d'abord, l'IA prend de plus en plus de place. Je trouve que c'est déplorable. Vraiment, c'est très triste parce que les journalistes, c'est des humains, c'est une âme, c'est un cœur.
Vous l'aurez compris, une majorité des individus ayant participé à notre sondage pense que l'IA ne pourra pas remplacer les journalistes.
On ne peut pas tout à fait répondre à cette question, car prédire le futur est impossible. On ne peut pas imaginer les conséquences de l'IA dans les prochaines années.
En effet, cette nouvelle technologie fait des progrès incroyables en un rien de temps.
On déduit que l'intelligence artificielle va sûrement affecter de manière négative les journalistes, mais elle ne les remplacera pas complètement. On peut donc conclure cela sur des faits réels, l'IA utilise uniquement des sources déjà existantes.
Il faudra alors toujours des journalistes pour fournir de véritables informations pour qu'elles puissent se baser sur des articles et des podcasts créés. Y a-t-il eu un jour un événement qui a causé un effet semblable à celui d'aujourd'hui avec l'IA, Pénélope ?
Oui, l'arrivée d'Internet. Grâce à des informations de l'INA, nous avons pu découvrir qu'il y a 30 ans environ, avec l'arrivée d'Internet, la presse papier était vouée à disparaître. Finalement, la presse n'a jamais disparu totalement. Même si tout de même, Internet a eu un fort impact. Maïlys, as-tu une anecdote sur l'IA ?
Oui, bien sûr. Avec plusieurs sources, Le Point, Le Figaro, Le Monde, nous avons une petite anecdote à raconter à notre auditoire. Connaissez-vous Michael Burry ? Eh bien, cet homme a prédit à l'avance la crise de 2008. C'est lui encore qui vient tout juste de miser plus $1 milliard sur la fin de l'intelligence artificielle. On en arrive donc à se demander si elle va vraiment persister dans le temps. Nous avons encore une petite question pour conclure, cette fois-ci pour Fantine. Considères-tu qu'aujourd'hui, il y a des points positifs sur l'IA dans notre société ?
Oui, aujourd'hui, on utilise l'intelligence artificielle dans plusieurs domaines, tels que la santé, le commerce et l'administration. Par exemple, elle aide les médecins, améliore les GPS et permet un meilleur fonctionnement des assistants vocaux.
À la semaine prochaine pour le 12e épisode.
IA, intelligence artificielle, technologie intelligente, programme.
Vous êtes sur Simone On Air.
Chers auditeurs,
nous sommes Capucine, Zoé et Gaspard.
Saviez-vous qu'il y a eu un achat récent de médias ?
Lequel ?
Celui du journal, le JDD, par Vincent Bolloré, un milliardaire. Le JDD est l'un des 3700 titres de presse en France.
Mais pourquoi est-ce un problème que 90% de la presse en France soit aux mains de 10 milliardaires ?
Ceci sera notre question qui va nous préoccuper aujourd'hui.
Déjà, nous allons expliquer ce que c'est la concentration des médias. La concentration des médias, c'est une situation dans laquelle le marché n'est pas partiellement libre et détenu par une majorité de personnes ou familles riches.
Mais pourrais-tu me dire, Gaspard, qui sont les milliardaires qui détiennent des groupes de presse en France ?
Bien sûr, Zoé. Je vais citer les plus connus. D'abord, Vincent Bolloré, qui est dans le top 10 des plus grandes fortunes en France en 2024. Il détient une bonne dizaine de médias comme France Catholique, C-Star, Canal+, CNews, Géo, National Geographic, Voici, Télé Loisirs, Femme Actuelle, Le Journal du Dimanche, Europe 2, RFM et d'autres médias. Vous pouvez voir une montée en puissance de Vincent Bolloré dans la revue Le 1, datée de septembre 2021.
Ah oui.
Ensuite, Bernard Arnault, premier des plus grandes fortunes en France en 2024. Il possède aussi beaucoup de médias, comme Paris Match, Science Avenir, Radio Classique, Les Échos, Le Parisien et bien d'autres. Enfin, Daniel Kretensky, un milliardaire tchèque qui est propriétaire de Télé 7 jours, Marianne, Elle, TF1, TMC, TFX, TF1 Série Film.
Peux-tu nous indiquer où tu as trouvé ces informations ?
Ces informations proviennent du site Monde Diplomatique.
Je viens d'apprendre aussi sur Radio France qu'un groupe du milliardaire, Rodolphe Saad, a acheté Brut, un média français.
Est-ce que, Capucine, la concentration des médias engendre des risques ?
Oui.
Mais quels sont les risques liés à cette concentration ?
Tout d'abord, l'atteinte au pluralisme de l'information.
Peux-tu nous expliquer qu'est-ce que le pluralisme ?
Le pluralisme, c'est une conception philosophique qui admet la diversité des opinions.
Oui, donc la concentration des médias limite pour les citoyens la possibilité d'accéder à des informations variées sur différents sujets.
Absolument. Selon le média La Marseillaise, 9 individus détiennent 90% des médias français, ce qui limite donc la diversité des opinions.
Les propriétaires font-ils exprès de réduire cette diversité ?
Pas vraiment. Ils orientent la ligne éditoriale de leurs médias, mais surtout pour défendre leurs intérêts financiers et idéologiques, comme avec Vincent Bolloré et Bernard Arnault.
D'accord. La presse s'est transformée en outil de pouvoir, Zoé ?
Un peu oui, car les milliardaires peuvent alors contrôler leur image dans les médias et les sujets abordés. On parle même de quatrième pouvoir.
Face à ce constat, on peut se demander si l'indépendance des journalistes est-elle donc menacée ?
Oui, les rédactions subissent des pressions comme des licenciements, des censures et des clauses de non-dénigrement. Par exemple, en 2024, Bernard Arnault a interdit à ses journalistes de parler avec d'autres journaux.
Qu'est-ce qu'une clause de non-dénigrement ?
C'est une interdiction au salarié de ternir la réputation de son employeur, ce qui est hors la loi.
Cette clause est-elle donc à l'encontre de la liberté de presse et d'expression ?
D'une certaine façon, oui.
Y a-t-il des conséquences à cette concentration des médias ?
Oui, comme la fragilisation de la démocratie. L'information est un bien public et les milliardaires façonnent l'opinion publique, ce qui affaiblit la capacité des citoyens à se forger un jugement libre.
Mais a-t-il des médias libres en France, Capucine ?
Oui, d'après Le Monde, ils se serrent les coudes pour sauver leur modèle économique fragile. En octobre 2016, 8 médias de gauche indépendants se sont associés pour lancer une plateforme appelée la Presse Libre.
Connais-tu quelques médias qui font partie de cette plateforme ?
Oui, il y a Le Contenu des Trois, donc Rue 89, Arrêt sur Image et Politis par exemple.
Quels sont leurs buts ?
De gagner en visibilité.
Le gouvernement aide-t-il les médias indépendants, Gaspard ?
Non, mais il aide au pluralisme. En 2023, le ministère de la Culture a versé 22 millions d'euros pour garantir la diversité des médias, d'après culture.gouv.
Qui a-t-il aidé ?
Les quotidiens d'information français, les chaînes d'outre-mer et la presse locale et régionale. Et si vous pensez que la France, qui est un pays libre, allez jeter un coup d'œil sur SF si on la respecte.
C'était Gaspard, Capucine et Zoé.
On vous dit bonne journée et merci à Madame Gégou, la technicienne.
Pause musicale dans l'émission des élèves de seconde du lycée Simone Veil de Liffré. On va écouter le groupe Fougeray Rosalie et son titre Mirabilis. Thank you. Mirabilis du groupe Fougeret Rosalie sur Canal B. Retour à l'IFRE avec les lycéens et lycéennes de Simone Veil.
Faut-il toujours croire les journalistes ?
Bonjour, nous sommes Jade,
Inès
et Leïna. Bienvenue dans ce podcast que nous vous présentons aujourd'hui.
Dans le cadre de notre cours d'EMC, dont le sujet porte sur comment s'informer aujourd'hui, nous nous sommes posé une question. Faut-il toujours croire les journalistes ?
Évidemment, il y a plein de manières de répondre à cette question, mais on va présenter les résultats de nos recherches qui ont été faites grâce à des ressources de confiance, Wikipédia ou un jour une question.
La première question que nous nous sommes posée a été de savoir s'il existait des règles pour les journalistes. Nos recherches nous ont alors menés vers la charte de Munich, qui a été signée en 1971 et révisée en 2011. Mais alors, en quoi consiste-t-elle ?
Cette charte est composée de 5 droits et 10 devoirs, parmi lesquels on retrouve le respect de la vie privée, le fait de ne pas utiliser de méthode déloyale pour obtenir des informations, ou encore le fait de ne jamais véhiculer de fausses informations. Dans le même esprit, il existe aussi la charte des devoirs professionnels des journalistes.
Elle a été rédigée pour garantir l'indépendance et la dignité professionnelle des journalistes. Ces textes n'obligent à rien, mais comme nous le dit le livre, les journalistes nous cachent-ils des choses ? En cas de non-respect, ils s'exposent notamment à des amendes ou des licenciements.
Puis, dans un second temps, on s'est demandé si tous les journalistes respectent ces règles. Leïna et Inès, vous avez trouvé des exemples où les règles précédemment citées n'ont pas été respectées par les journalistes.
Oui, en effet, nous avons sélectionné deux exemples. Le premier concerne une photo qui a mal été utilisée. Un article avait été rédigé à la suite du meurtre d'une jeune fille. Pour des raisons de protection de la famille, nous possédons très peu d'informations sur cette affaire. Nous avons quand même trouvé de nombreux articles disant qu'une photo du frère de la victime avait été utilisée par les médias comme celle du tueur. Il y a évidemment eu de nombreuses polémiques et certaines personnes ont dénoncé cette utilisation sans vérification de source.
Et donc, vous aviez un deuxième exemple à présenter ?
Oui, effectivement, notre deuxième exemple concerne un jeune homme connu sous le nom de Hans L. Il avait annoncé sur ses réseaux sociaux avoir traversé un détroit à la nage. François Normandie avait alors diffusé un reportage sur ce jeune nageur de 19 ans qui disait avoir parcouru le détroit de Bab al-Mandab. À la suite de ce reportage, le frère du garçon a contacté France 3 pour leur dire que toute cette histoire était fausse. De nombreuses vérifications l'ont prouvé par la suite et François a retiré le reportage et s'est excusé.
On aperçoit donc que les règles du journalisme ne sont pas toujours complètement respectées. Cependant, on observe de plus en plus de transparence chez les journalistes. On retrouve beaucoup de polémiques autour de ces règles non respectées, ce qui pousse certains médias à nous faire part de l'intégralité de leurs recherches. Certaines chaînes de télévision comme TF1 ou France Télévisions affichent même un QR code qui mène vers leurs recherches. Ça nous donne donc plus confiance envers ces journalistes.
En conclusion, on remarque que si parfois les journalistes ne vérifient pas leurs sources et diffusent de fausses informations, l'existence de chartes et de la transparence de plus en plus importante de la presse donne confiance.
Ce qu'on vous conseille de faire est donc de continuer de développer votre esprit critique pour vous faire votre propre avis et d'adopter quelques réflexes en cas de doute sur une information. Quels sont ces réflexes qu'on peut prendre, Inès ?
On conseille d'abord de regarder si l'information provient bien d'un site d'info ou de regarder qui l'a rédigé ou partagé. Est-ce un journaliste ? Peut-on avoir confiance ? Il faut également varier les sources pour vérifier que les informations sont communes à plusieurs médias. Pour finir, on peut aussi observer la date et les détails lorsqu'il s'agit d'une photo.
On espère que ce podcast vous aura plu et qu'il vous permettra d'y voir plus clair dans le flot d'informations continues auquel nous faisons face.
Et n'oubliez quand même pas que la plupart des journalistes font bien leur travail.
Merci de nous avoir écoutés.
Vous êtes sur Simone On Air.
Bonjour à toutes et à tous, je suis Nathan et bienvenue sur ce nouvel épisode de notre podcast que j'animerai avec Brendan et Nathanaël à l'antenne.
Bienvenue. Alors, quel est le sujet du jour ?
Aujourd'hui, nous allons nous poser une question. Le journalisme est-il devenu sensationnel ? D'abord, qu'est-ce que c'est que le sensationnalisme ? Le sensationnalisme, c'est jouer sur les émotions pour faire le buzz. En effet, on entend des scoops un peu tout le temps maintenant, à la télé, à la radio ou même dans les journaux. Mais ces soi-disant infos incroyables sont bien souvent juste des titres aguicheurs ou bien simplement l'information est fausse.
Effectivement, de nos jours, on est bombardé d'informations au quotidien. Alors, les différentes informations ont du mal à ressortir. On ne retient que celles qui nous font réagir ou ressentir des émotions.
Nous allons nous demander pourquoi les médias le font, comment et que faire pour mieux s'informer.
De nos jours, on voit des infos incroyables un peu partout. Mais y en a-t-il tant que ça? Les médias n'exagéraient-ils pas un peu toutes ces informations?
Si en effet certains médias en ligne gonflent les titres en utilisant des titres aguicheurs, en exagérant, regardez par exemple si j'utilise comme titre « Reportage sur la fabrication des smartphones », le titre est peu aguicheur et ne va sûrement pas intéresser grand monde.
Tout à fait. Alors que si j'utilise plutôt comme titre « La vérité que personne ne vous dit sur la vraie fabrication des smartphones », là, le titre est bien plus attrayant, alors qu'il y aurait le même article derrière, ce qui attire beaucoup plus de clics. Surtout que des fois, il est plus simple de juste balancer au lecteur l'information qui peut faire le buzz que d'aller la vérifier. Par exemple, des fois, le but est de sortir un article le plus vite possible pour être le premier média sur l'info. Et il peut être plus simple de ne pas prendre le temps de bien vérifier les informations et leurs sources. On entraîne une boucle infernale dans laquelle tous les médias sont à la course à l'info. À qui dégotera la meilleure info? Des fois, on peut chercher à juste faire réagir le lecteur afin de faire circuler l'info et de la rendre virale pour augmenter la visibilité du média. On peut par exemple penser à l'incarcération de Nicolas Sarkozy, une affaire confuse et racontée de manière peu claire par les médias qui a fait beaucoup réagir. Quand les faits sont moins importants que l'appel à l'émotion, pour modifier l'opinion publique, on appelle ça la post-vérité.
Mais pourquoi vouloir attirer les clics?
Plus de visibilité rapporte plus de revenus grâce aux publicités. Mais ce n'est pas tout. Comme ces médias ont plus de visibilité, leur propriétaire peut véhiculer ses idées plus facilement. Tous ces titres racoleurs sont issus d'une course aux médias. Car les différents médias cherchent à attirer les spectateurs en proposant du contenu et des infos toujours plus attirantes. En résumé, la chaîne de télé, le journal, la radio, avec le titre le plus aguicheur, attirera plus et aura une audience plus importante.
Effectivement, certains médias exagèrent donc leurs titres, comme BFM TV ou TF1, ou même Le Point et le JDD.
Maintenant, nous allons parler d'une autre pratique cherchant à augmenter la visibilité, l'infotainment.
L'infotainment, c'est un procédé qui consiste à traiter un média d'information avec des procédés du divertissement, rendant le contenu plus intéressant et plus attrayant.
Cette pratique se répand d'autant plus avec la démocratisation des réseaux sociaux, les téléphones, ainsi qu'avec les vidéos courtes et pas toujours vraies. Sur les réseaux sociaux, pas comme avec les médias, l'intérêt est parfois juste de faire le buzz. À noter que l'infotainment cherche plutôt à divertir qu'à informer.
On peut aussi ajouter que les réseaux sociaux aident par exemple à partager des extraits de médias, souvent les meilleurs moments, qui sont clippés et postés.
Oui, mais quels programmes peuvent être qualifiés d'infotainment? Par exemple, les clashs à la télé peuvent rentrer dans la catégorie de l'infotainment. Je prends par exemple, même si elle n'existe plus, la fameuse émission TPMP. Dans cette émission, le but premier était de divertir, de choquer plutôt que d'informer, avec des débats animés, des réactions surprenantes et des informations qui font réagir, qui soulèvent des débats.
L'infotainment peut aussi être moins extrême. Ça peut être juste des questions plus légères lors d'interviews, comme le plat préféré d'un politicien ou son groupe de musique favori. L'infotainment se traduit généralement par un ton moins sérieux ou des blagues se glissant entre les informations. On peut avoir des débats dans lesquels les présentateurs parlent des amis autour d'un verre avec une ambiance plus détendue, plus divertissante.
Pour contrer cette tendance à préférer le choquant en réel, il y a de nombreuses solutions. Il ne faut pas réagir ni véhiculer ce genre de contenu. Regarder de l'infotainment est toujours une activité divertissante, mais il ne faut pas en abuser. Ce n'est clairement pas la meilleure façon de s'informer.
Mais alors, comment on est censé faire?
On peut ne pas privilégier les titres aguicheurs, ne pas sauter sur la moindre information qui sorte de l'ordinaire.
En effet, il est bien mieux de bien prendre son temps, diversifier ses sources et faire attention à où on lit notre information. Souvent privilégier un média lent et authentique, l'infotainment n'est pas la seule cause de cette tendance à préférer choquer qu'informer.
Oui, il faut faire attention aux informations que l'on trouve, ne pas en parler ou la relayer directement, mais plutôt la vérifier et croiser les sources.
Si tout le monde faisait comme ça, je pense que le journalisme s'en porterait bien mieux.
Merci de nous avoir écoutés, merci.
Vous êtes sur Simone On Air.
Chers auditeurs et auditrices, bonjour, nous sommes Mathis, Léonce et Ganaël, trois élèves en seconde au lycée Simone Veil. Aujourd'hui, nous allons tenter de répondre à la question suivante, comment bien s'informer quand on est lycéen?
D'abord, Ganaël, les jeunes s'informent-ils ?
De nos jours, selon l'INJEP, donc l'Institut National de la Jeunesse et de l'Éducation Populaire, 4 jeunes sur 10 s'informent tous les jours. Pour ce qui est des lycéens du lycée général et technologique Simone Veil, 76,3% suivent régulièrement l'actualité, selon une source enquête menée dans le lycée. Les thèmes d'actualité les plus suivis par les jeunes sont le sport, 45%, les faits divers, 31%, et la politique nationale, 35%. Alors que le thème le moins suivi est tout ce qui concerne la mécanique.
Et qu'en est-il pour les élèves du lycée ?
Pour ce qui est des élèves de Simone Veil, c'est la politique internationale, 48,5%, le sport, 39,2%, et la culture, 37,7%. De plus, la raison principale pour laquelle 42% des lycéens de Simone Veil s'informent est la curiosité pour apprendre des choses et pour comprendre le monde qui les entoure, tandis que 20% s'informent pour pouvoir débattre et discuter avec leur entourage. Enfin, en moyenne, les garçons du lycée considèrent que l'actualité est un moyen de passer le temps, voire en général se divertir, alors que les filles ont une vision plus utilitariste pour les études.
Ensuite, Mathis, comment s'informe-t-il ?
Nous allons donc nous intéresser à la manière dont les jeunes s'informent. Aujourd'hui, les jeunes s'informent plus sur les réseaux sociaux comme TikTok, Instagram ou encore YouTube. Cela représente 67,8% des élèves pour le lycée Simone Veil. De plus, beaucoup de jeunes suivent Hugo Décrypte. Hugo Décrypte est un journaliste et vidéaste qui s'est fait connaître grâce à ses vidéos sur les réseaux sociaux.
Mais est-ce une source fiable ? Étant donné que récemment, il y a eu une polémique sur le fait qu'il aurait signé un accord commercial afin de promouvoir un produit. On peut donc se demander s'il est réellement journaliste ou plutôt influenceur.
Mais il y a une grande différence entre les journalistes et les influenceurs. En effet, les journalistes ont fait des études dans le domaine et sont formés pour ce qui les rend plus fiables pour beaucoup de monde. Ensuite, le deuxième média le plus utilisé par les jeunes est la télévision, comme par exemple le JT de TF1 ou bien celui de France 2. Dans le lycée Simone Veil, 60% des élèves regardent un JT, ce qui pour eux correspond à un moyen de s'informer et à un moment où en famille, où l'on peut échanger sur l'actualité.
Enfin, Léonce, quels sont les médias les plus fiables et les meilleurs pour s'informer quand on est lycéen ?
Nous allons vous donner quelques bons médias à utiliser pour s'informer. Il y a des journaux télévisés tels que 28 minutes sur Arte. 28 minutes est un journal télévisé présenté par Elisabeth Quin et Renaud Dely. Plein de sujets d'actualité sont abordés, comme la politique, les guerres ou encore l'écologie. Vous pouvez le visionner tous les jours de la semaine à partir de 20h05. Si vous n'aimez pas regarder la télévision, pas de problème, il existe bien d'autres médias utiles pour s'informer, comme les réseaux sociaux, Instagram ou X par exemple. Attention par contre aux fake news et à l'infobésité.
Mais qu'est-ce que l'infobésité, Léonce ?
L'infobésité, c'est le fait d'avoir un excès d'informations peu importantes qui surcharge mentalement les personnes. Donc ces personnes ont peur de manquer des informations souvent anodines. Cependant, sur les réseaux sociaux, il existe des comptes officiels, des journaux ou des émissions télévisées qui sont fiables car les journalistes vérifient les informations avant de les poster. Par exemple, le journal des sports de l'équipe ou encore Tout le sport sur France 3. Les journaux papier et les radios sont également des médias que nous conseillons comme le journal Ouest France ou la radio France Inter.
On espère que cela vous a intéressé et vous a appris des choses. Merci pour votre écoute. Au revoir.
Vous êtes sur Simone On Air.
Bonjour, nous sommes Gabin, Kelly et Ellie et nous allons aujourd'hui vous parler du journalisme Feel Good.
T'es dans un mauvais mood, écoute Feel Good.
Depuis quelques dizaines d'années, une forme de journalisme se démarque parmi les autres. Sa forme unique et son genre fait de lui un des médias les plus positifs, son nom, le Feel Good.
Et quelle est son origine ?
Alors, le Feel Good devient de plus en plus populaire depuis le 21e siècle. D'abord connu aux États-Unis, il est vite importé en France par des médias comme le célèbre Le Monde, qui a une rubrique Feel Good. Mais alors, on peut se demander, qu'est-ce que le journalisme Feel Good et à quoi sert-il ? Tout d'abord, le concept de Feel Good est de donner que des informations de bonnes nouvelles. Mais alors, pourquoi est-il nécessaire de donner que des bonnes nouvelles dans un monde où la plupart des médias donnent des informations de mauvais augure ? Eh bien, d'après le 1, les Français utilisent environ 8 canaux de diffusion, ce qui crée une surcharge informationnelle, ce qui engendre du stress à cause de l'information qui n'est pas souvent très bonne. Et on ne sait plus trop où donner de la tête. Pour contrer ça, le Feel Good, grâce à ses bonnes nouvelles qui incitent à faire agir les gens par son explosivité et son côté amusant, il donne envie. Il diminue le nombre d'informations que l'on reçoit en triant que les bonnes nouvelles.
Il y a un journal connu qui possède une rubrique Feel Good. Savez-vous comment il s'appelle ?
Non, peux-tu nous en parler ?
C'est le journal Le Monde. En effet, ce journal propose des articles feel good sur la gastronomie, le voyage,
la mode ou bien la beauté.
Est-ce qu'on pourrait avoir un exemple, s'il te plaît ?
Bien sûr. Par exemple, l'article du 12 novembre 2025 parle des bistrots, car depuis quelque temps, le nombre de bistrots ne cesse de baisser. Ils sont passés de 200 000 en 1960 à 38 800 en 2023. Et cela ne s'arrête pas. Mais il existe quand même des initiatives, comme dans une micro-commune de 270 habitants, où un bistrot a ouvert en 2023 et a finalement dû fermer 2 ans plus tard, ce pour des raisons financières. Mais ce sans compter sur la solidarité des membres de la micro-commune. Le bistrot a donc pu rester ouvert, une forme d'initiative de solidarité que certaines villes devraient copier pour éviter la disparition de ces commerces où réside le bon vivre et la convivialité.
Peux-tu aussi nous parler du média positif ?
Alors, le média positif est un site internet qui contient des articles rédigés par des journalistes dans lesquels ils parlent des bonnes nouvelles de la semaine.
Mais il y a combien d'articles ?
Il y a en moyenne un article par jour.
Et c'est sur quel sujet ?
Les articles sont variés, ils parlent de l'environnement, de la culture ou du sport, mais également des faits de société.
Peux-tu nous donner un exemple d'article de ce média ?
Bien sûr. Alors, un de ces articles parle de chewing-gum et est publié le 28 novembre 2025. Oui, oui, ce bonbon à mâcher très populaire chez les jeunes, mais qui pollue. 25 ans à se dégrader. Mais une étudiante de 25 ans, nommée Marine Collant, a créé une start-up locale permettant de recycler les chewing-gums. En effet, Créagum collecte les chewing-gums dans les campus et supermarchés de la région. Ensuite, elle les nettoie et les recycle en jouets de plage, notamment en tortue, qui est un joli clin d'œil car cette espèce est victime de la pollution marine. Enfin, pour être écolo jusqu'au bout, ces jouets sont vendus dans des sacs confectionnés à partir de voiles de bateaux recyclés. Alors pour finir, vous vous demandez sûrement si le feel good est suffisant pour s'informer. Eh bien je dirais que ça dépend, car étant donné que l'actualité est souvent compliquée, avec le feel good, nous pouvons louper beaucoup de choses. Mais si vous êtes oppressé par l'actualité, le feel good vous fera le plus grand bien. Sur ce, c'était Ellie, Kellig et Gabin, et notre présentation du feel good est terminée. Alors nous espérons vous avoir appris des choses sur ce sujet, et au revoir.
Nouvelle pause musicale sur Canal B dans les ateliers radiophoniques. On va écouter l'italienne Gaia Banfi avec son titre Piazza Centrale.
Per sempre un tempo bello, tutto si assorbe come l'argento, che diventa nero e mi invecchia. Pelle, a guardare il cielo che diventa petrolio e si mischia la neve che arriva con calma nella piazza centrale. Ti somiglia a un paese con la sua chiesa centrale, dove ti guardano tutti, come guarda ogni particolare. Forse dovremmo scappare, amore nel silenzio che diventa morboso, confuso ai passi dei vecchi della piazza centrale. Thank you.
Piazza Centrale, titre de l'italienne Gaia Bonfi.
Canal B, radio curieuse.
Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans ces podcasts.
Nous sommes Anouk, Noévan et Kylian.
Voici le sujet du jour, l'histoire de la liberté de la presse en France et ses nouveaux enjeux. Attaqués par des petits groupes politiques violents souhaitant imposer leur vision du monde ou par la pression de plusieurs politiques, souhaitant empêcher certaines affaires d'éclater au grand jour, le droit à l'information dérange. Nous sommes là pour vous expliquer. Nous allons donc retracer l'histoire de la liberté de la presse en France en suivant les dates importantes qui ont marqué des tournants de 1789 à 2017. En 1789, la Révolution française amène la liberté de la presse. Après la Révolution, des centaines de journaux politiques commencent à apparaître, mais ce fut de courte durée car, en 1797, la presse est placée sous contrôle accru. Après la Révolution, au début du XIXe siècle, la liberté de la presse change souvent selon les régimes. L'Empire, puis la Restauration et enfin la Monarchie de Juillet vont tour à tour limiter ou accepter les journaux qui critiquent le pouvoir. Malgré tous ces changements, l'idée que la presse doit pouvoir parler librement s'installe peu à peu dans l'esprit des Français. On va faire un bond dans le temps et dans l'avancée de la presse, je laisse la parole à Anouk.
Le 29 juillet 1881, une loi a été adoptée pour définir les libertés et la responsabilité de la presse française. Lors de la Seconde Guerre mondiale, la presse en France a été énormément censurée pour maintenir le moral et l'ordre. Sous le régime de Vichy, la presse sera également fortement contrôlée et censurée, puis est relancée après la libération. En 1958, l'État décide de renforcer la protection des journalistes grâce à de nouvelles lois. En plus de cela, il met en place le Conseil supérieur de l'audiovisuel qui permet un système de régulation des autorités indépendantes pour la télévision et la radio. Entrée dans le XXIe siècle, avec Internet et les réseaux sociaux, la liberté d'expression prend de nouvelles dimensions. Tout le monde peut aujourd'hui publier, partager et débattre. Mais cette explosion des voix s'accompagne de défis inédits, désinformation, discours de haine et concentration des médias. Sur le plan juridique, la France, comme d'autres pays européens, se trouve face à la nécessité de mettre d'accord la liberté de la presse et la régulation du numérique. Kylian va nous en dire plus sur ce sujet.
Plusieurs lois sont débattues contre les fake news, qui est une loi qui vise à combattre la propagation des fake news, notamment pendant les périodes électorales, et une autre loi pour protéger les données personnelles qui, elle, a été renforcée et modifiée avec l'adoption du Règlement général sur la protection des données, RGPD, en 2018, qui s'applique au sein de l'Union européenne. Ces textes soulèvent parfois des inquiétudes. Où se situe la limite entre protection et censure ? Puis, en mai 2017, Emmanuel Macron devient président de la République. Son arrivée marque un changement important. Son mandat commence avec l'idée de mieux organiser le monde de l'information, tout en rappelant que la diversité des médias et l'indépendance des journalistes sont essentielles. Cela inclut, entre autres, des discussions sur la transparence des plateformes numériques, le financement de la presse et la lutte contre les manipulations informatives. Conclusion. La liberté de la presse en France est le fruit d'un long combat. De la déclaration révolutionnaire à la loi de 1881 jusqu'aux défis contemporains du numérique et des nouvelles formes de communication, cette liberté s'est affirmée, parfois vacillée, mais toujours portée comme une des pierres angulaires de la démocratie. Merci d'avoir écouté cet épisode. Continuez à questionner, débattre et défendre la liberté d'expression. Merci, c'était Anouk, Noévan et Kylian pour ces podcasts. C'est tout pour aujourd'hui. Au revoir et à bientôt.
Plus d'un Français sur deux s'informe désormais sur les réseaux sociaux. Bonjour et bienvenue sur ce nouveau podcast. Je suis Flora Leroux, votre présentatrice pour ce podcast. Aujourd'hui, nous pouvons alors nous poser la question, est-ce que s'informer uniquement sur les réseaux sociaux peut-il être néfaste ? Pour ce podcast, je suis en compagnie d'Élise Colléno et de Romane Grosdois.
Bonjour tout le monde. Pour illustrer le côté néfaste des réseaux sociaux, j'ai choisi l'exemple de l'influence des réseaux sociaux sur l'élection présidentielle américaine en septembre 2024. En effet, nous avons pu constater que Donald Trump, ex-président américain à cette période, et Elon Musk, propriétaire de X, publiaient en masse des posts mettant en avant la campagne de Trump. L'important soutien financier d'Elon Musk, ainsi que la visibilité qu'il a apportée à sa campagne, ont été des facteurs décisifs dans sa victoire. Les millions de personnes qui voyaient chaque jour des posts mettant en valeur et prônant l'élection de Trump ont sans aucun doute joué en sa faveur, lui conférant une audience importante. Roman, tu aurais des précisions à apporter sur le sujet ?
Nous pouvons aussi remarquer que l'augmentation du nombre de fake news est directement reliée à Elon Musk, puisqu'il a pris l'initiative de supprimer les bureaux de fact-checking, permettant ainsi à tout le monde de pouvoir publier et exprimer n'importe quelle opinion et prétendu fait, sans aucune garantie que cela soit vrai. Le fact-checking, ou vérification des faits, pardon, est le fait de vérifier si une information est vraie, fausse ou trompeuse, en s'appuyant sur des sources fiables. Documents officiels, études, déclarations, données publiques, etc. De plus, il existe certaines techniques que l'on pourrait qualifier de manipulation pour accroître son audience et garder l'attention de ses auditeurs. Cela s'appelle le biais de négativité. Trump, par exemple, postait des publications alarmistes pour donner l'impression aux Américains qu'ils avaient besoin de lui et de sa future protection contre les migrants, les terroristes. En créant un sentiment d'urgence et d'insécurité parmi son audience, il les incitait à voter pour lui et les changements bénéfiques qu'il allait apporter, ce qui joua clairement en sa faveur et lui rapporta beaucoup de voix.
Est-ce qu'il faut donc éviter d'utiliser les réseaux pour s'informer ? En Iran, par exemple, un mouvement sur les réseaux sociaux, #StopTheExecutionInIran, a été repris massivement à l'international suite aux exécutions programmées de 5 jeunes Iraniens. Ce mouvement de grande ampleur a permis de stopper ces exécutions. Les réseaux sociaux permettent aussi de montrer des faces du monde que l'on n'aurait pas soupçonnées, comme voir le quotidien de personnes dans le besoin, voir des actions humanitaires menées par des gens ordinaires, ou encore permettre d'acquérir le point de vue parfois très différent d'autres personnes.
Roman, es-tu d'accord avec ce que vient de dire Élise ?
Oui, tout à fait. On ne peut pas déclarer que les réseaux sociaux sont uniquement bons ou mauvais, il faut nuancer, mais il est vrai que dans certaines situations, ils peuvent s'avérer être des alliés de choix, dans le cadre de pays autoritaires, où toutes les libertés individuelles ne sont pas garanties, il permet de trouver du soutien, de l'aide et de l'audience qui à son tour permettra de sensibiliser un plus grand nombre de personnes sur des situations parfois cachées aux yeux extérieurs du pays. Ils peuvent véhiculer des messages haineux ou porteurs d'espoir, rassurer ou inquiéter et ouvrir les yeux des auditeurs sur des situations dites impensables, donc harcèlement de rue, agression, violence, discrimination.
Grâce à tout ce que nous venons de voir précédemment, nous pouvons maintenant tenter de répondre à notre question de départ. Comme nous avons pu le voir précédemment, les réseaux sociaux sont globalement néfastes s'ils sont la seule source d'information, même s'ils possèdent quelques aspects positifs. Les situations diverses et variées auxquelles les jeunes font face nous empêchent de pouvoir trancher sur la question. Une chose est sûre, s'informer uniquement sur les réseaux sociaux est une mauvaise approche. Bien sûr, on peut voir et entendre des choses que les médias ne relayent pas forcément, mais la proportion grandissante de fake news et de désinformation font qu'il est néfaste d'être à l'écoute des réseaux sociaux uniquement. Les réseaux sont plus un outil supplémentaire, un autre point de vue sur le monde qui nous entoure. Mais un point de vue reste un point de vue, il peut être biaisé. Quel conseil peut-on vous donner pour bien vous informer ? N'oubliez pas les trois points essentiels qui permettent de dire que l'on a affaire à une information. Tout d'abord, à l'origine d'une information, il y a un fait. Ce fait doit être vérifié et vérifiable, donc utilisation de sources fiables. Et ce fait doit avoir un intérêt à être porté à la connaissance du public. Je remercie chaleureusement Élise et Roman pour leur participation et leur implication dans ce podcast, ainsi que vous, chers auditeurs. Prenez soin de vous et à la prochaine.
Ce premier épisode de l'émission des élèves de seconde du lycée Simone Veil de Liffré est terminé. Rendez-vous la semaine prochaine pour le second épisode. Même antenne, même jour, même heure. On se quitte en musique avec l'artiste belge Teddy Bear, avec son titre Chaussures Roses. À suivre MC Solar, nouveau western. À bientôt, salut.
J'ai mis mes chaussures roses, mon Teddy comme toujours. Je vais pas changer les choses parce que c'est un autre jour. Je suis le mec d'hier, le grand gars paumé, un peu trop sûr de lui. D'après les gens paumés, un jour je me suis dit faut qu'on me voie. Alors j'ai pris du poids, la balance dans ma tête a toujours fait la loi chez nous. On existe quand on consomme, jamais eu de grandes sommes, juste assez pour qu'on m'apprenne à devenir un grand homme. Qu'est-ce que ça veut dire demain? Pourquoi je m'attache trop vite? Est-ce que si j'achète ma carrière, ça veut dire que je la mérite? Est-ce que ma mère sera là longtemps pour écouter mes histoires? Est-ce qu'un jour je serai heureux de me voir nu dans un miroir? Faut que je m'aime, c'est la base d'une vie saine. Mais qu'est-ce que je dois faire alors pour que je m'aime, pour que je m'aime? Enchanté, je suis celui d'hier et de la semaine passée. Je m'arrose tous les jours pour me faire pousser. On m'a dit d'être moi de la tête aux pieds, alors j'aurai toujours mes chaussures roses. Je suis celui d'hier et de la semaine passée. Je marche contre sens pour voir ce que ça fait. On m'a dit de pas être le gars d'à côté. Alors enchanté, enchanté.
rendu fou à force d'être doux. Adore-moi mon pouvoir, je crois que c'est de m'en foutre à mort. Mais le coup de l'indifférence rend les coups bien plus féroces, mais je suis toujours debout. La voix, la différence, je viens du pays où les gens sourient de trop. Et moi j'aime ça, le ciel pleure chez nous, on fait quand même la fête après ça. Je suis l'attardé dans un monde d'attardé qui se bouche les oreilles quand on lui dit que ça va barder. Mais il faut que j'apprenne à dire au revoir à l'excès, même si je le fais pas exprès. Peut-être que je serai jamais prêt. Enchanté, je suis celui d'hier et de la semaine passée. Je m'enhausse tous les jours pour me faire pousser. On m'a dit d'être moi de la tête aux pieds, alors j'aurai toujours mes chaussures roses. Je suis celui d'hier et de la semaine passée. Je marche à contresens pour voir ce que t'as fait. On m'a dit de pas être le gars d'à côté. Alors enchanté, enchanté à mon reflet de toujours. Toi qui me suis à la trace, depuis qu'on s'est rencontrés, depuis que je t'ai vu dans la glace, mais que j'avais pas appris à connaître. Foutu hasard, on est perché sur la même planète. Enchanté, je suis celui d'hier et de la semaine passée. Je m'arrose tous les jours pour me faire pousser. On m'a dit d'être moi de la tête aux pieds, alors j'aurai toujours mes chaussures roses. Je suis celui d'hier et de la semaine passée. Je marche à contresens pour voir ce que t'as fait. On m'a dit de pas être le gars d'à côté. Alors enchanté, enchanté. Enchanté, enchanté. Enchanté, enchanté.
Le vent souffle en Arizona, un état d'Amérique dans lequel Arizona. Cowboy dingue, du bang bang, du flingue, de l'arme, du cheval et de quoi faire la bringue. Poursuivi par Smith et Wesson, Colt, Derringer, Winchester et Remington. Il erre dans les plaines, fier, solitaire, son cheval et son partenaire. Parfois, il rencontre des Indiens, mais la rue est vers l'or et son seul dessein. Sa vie suit un cours que l'on connaît par cœur. La rivière sans retour d'Otto Preminger, tandis que John Wayne est looké à la Lucky Luke, propre comme un archiduc, oncle Sam me doute. Hollywood nous burn, Hollywood burn, dans la vie de tous les jours comme dans les nouveaux westerns. On dit gare aux gorilles, mais gare à Gary Cooper. Le western moderne est installé dans le secteur. Quand la ville dort, les trains ne sifflent pas. Les sept mercenaires n'ont pas l'once d'un combat. Harry, désormais, est proche de Gare de l'Est. Il saute des époques les deux pour un nouveau Far West. Les saloons sont des bistrots, on y vend des clopes. Pas de la chip, du top, du cinémascope. Il entre dans le bar, commande un indien, scalpe la mousse, boit, repose le verre sur le zin. Une douche cheveux se part sous, des types se baignent pour des motifs utiles comme dans les nouveaux westerns. Les têtes sont une sorte de multinationale. Elle exporte le western et son modèle féodal. Dicte le bien, le mal, le Luc et les Dalton sont camouflés en Paul Smith et Weston. On dit que ce qui compte c'est le décor. La vie ne fait pas le moins dans la rue et vers l'or. Dès lors, les techniques se perfectionnent. La carte à puce remplace le Remington. Mais Harry, à Paris, n'a pas eu de chance. On le stoppe sur le périph' avec sa diligence. Puis on le place à Fresnes, pour que Fresnes le prenne. Victime des directives de ce que l'on appelle le nouveau western. Le nouveau western. Cheers. Bye.
Parfois, la vie ressemble à une balle perdue. Dans le système moderne, se noie l'individu. Pour rester lucide, il s'abreuvait de brandy. Désormais, on brandit téléchit et baby. Ou blanche et la chevauchée fantastique. Toujours à contre-jour, c'est bien moins héroïque. Dans le monde du rêve, on termine par un happy end. Est-ce aussi le cas dans ce que l'on nomme le nouveau western? Yeah. Le nouveau western. Le nouveau western. Moderne. Sitting Bull. Koshi. Koshi. Calamity Jane. Jane. West. West. Jane. Les Quo. Les Scal. Thomas Walk. Thomas Walk. Le nouveau western.
Les ateliers radiophoniques des Canal B.